Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air, ça démarre. Et pour alimenter notre discussion, nous attendons vos questions dès à présent par SMS, sur Internet ou via les réseaux sociaux. Un mois de vrai déconfinement et nous en sommes déjà à la deuxième vague. Pas celle du virus, celle-ci est encore une incertitude. En revanche, la deuxième vague, celle des plans sociaux, elle fait d'ores et déjà partie de notre réalité. Airbus, Air France, Renault, La Halle, Camailleux, mais aussi Nokia et Sanofi. Des suppressions de postes, des manifestations et puis cet avertissement qui est venu directement de l'Élysée. La rentrée, elle sera très dure. Alors est-ce qu'il faut penser que la cascade d'argent public déversée jusqu'à présent sur l'économie, elle ne sert pas à grand-chose? Et cela alors même que le gouvernement est en train d'écrire son plan de relance qu'il va nous annoncer fin août. Par où passera ce nouveau chemin dont parle le chef de l'État? Est-ce qu'on peut vraiment penser que relancer la croissance, ça se fait grâce à l'écologie? Et puis au final, qui paiera la facture de la crise? Crise, s'en sortir, à quel prix? C'est le thème de notre émission. Et pour en parler avec nous, autour de la table, je salue nos invités. Philippe de Sertine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut de Haute Finance et vous avez dirigé le rapport « La grande transformation » publié il y a quelques semaines par le Comité 21. C'était sur le défi du changement climatique. Fanny Guinochet, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques et sociales et on vous entend tous les matins pour le décryptage éco sur France Info. Christine Kerdelan, bonsoir. Vous êtes la directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle. À la une de votre hebdomadaire cette semaine, l'aéronautique cherche la parade. Ben, ça tombe en plein dans le mille pour notre émission. Et enfin Mathieu Plane, bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE, directeur adjoint du département analyse et prévision. Bienvenue à tous les quatre et merci de partager vos connaissances et puis votre regard avec nous lors de ce C'est dans l'air en direct. La crise, ça peut avoir plusieurs degrés de gravité. Alors, il faudrait peut-être s'entendre sur le mot. Philippe Dessertine, on est à un mois de déconfinement et on entend que l'économie, finalement, elle a bien rebondi. Est-ce que c'est vrai?
Alors oui, c'est vrai, elle a bien rebondi quand elle rebondit, si vous me permettez cette expression. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui marchent plutôt mieux que prévu. La croissance est plutôt meilleure qu'attendue. Puis il y a d'autres secteurs, et des gros secteurs très lourds. On parlait de l'aéronautique, on parle évidemment du tourisme, mais on pourrait parler aussi de la construction navale. Vous avez un certain nombre de secteurs comme cela qui vont alors là, eux, toujours très mal. Et dont on se demande effectivement s'ils vont repartir à eux seuls, ils pourraient suffire habituellement à plonger la France dans la déprime. Là, évidemment, quand on sort d'une situation incroyable, c'est-à-dire un arrêt total de l'activité, quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, enfin, on est, vous voyez, moins 17%, quand d'habitude on est à moins 0,5%, on dit, oh là, catastrophe.
Et qu'on s'y crée une catastrophe,
voilà.
Oui, déjà. Oui.
Donc là, on est dans des taux, effectivement, absolument incroyables. Et évidemment, par rapport à cette situation, on va dire qu'on recommence dans les meilleures conditions. Mais quand on dit on recommence dans les meilleures conditions, ça ne veut pas dire loin s'en faut que l'on est tiré d'affaire. C'est vrai que ça, c'est le problème quand il commence à faire beau, qu'on se dit on pense au départ en vacances, on se dit finalement le Covid c'est derrière nous. On a tendance un peu à avoir une sorte de déni par rapport à la situation économique. Donc ça va.
Mais vous diriez que le rebond, il est fort? Quand on dit l'économie, elle rebondit, elle repart, vous dites il y a des secteurs. Mais au global, il est fort ce rebond?
Ah ben, il est fort quand vous regardez d'où on vient, évidemment, parce que vous partez de zéro.
On avait chuté.
Oui, voilà, vous partez de zéro, c'est-à-dire après, quand vous êtes, par exemple, sur les prévisions trimestrielles, on est plus 17. Donc un trimestre à plus 17, c'est des choses de mémoire de statisticien, je dis sous contrôle de tous ceux qui... On n'a jamais vu ça, mais jamais. Et quand même on regarde très très loin, on n'avait jamais vu ça. Donc effectivement, quand vous êtes à plus 17 et que vous étiez à zéro, vous dites ça repart très très fort. Mais on revient de loin.
Christine Kerdelan, oui, l'aéronautique. Dans l'industrie, ça se passe comment, cette reprise?
Ça se passe plutôt bien, mais on est actuellement à 80% de taux d'activité. C'est-à-dire, avant le Covid, on était 100% et on est à 80%. On était à 50% pendant le confinement. Donc, ça a remonté. Effectivement, on est à 80%, mais on est encore loin de remplir les usines. Il y a encore beaucoup d'usines qui fonctionnent en mode dégradé, c'est-à-dire avec les gens à distance les uns des autres, ce qui fait qu'on n'a pas la productivité habituelle. Et puis, on s'inquiète énormément dans l'industrie en ce moment. On a très, très peur que les leçons de 2008-2009 ne soient pas tirées. Ce qui s'était passé en 2008-2009, c'est qu'il y avait eu un record de recettes au niveau des impôts de production, en 2009, et l'année 2009 a aussi été l'année record en termes de faillite d'entreprise. C'est le décrochage de l'industrie date de 2009.
Les impôts de production, c'est des impôts payés
en fait sur le chiffre d'affaires ou sur la valeur ajoutée ou sur les investissements et pas du tout sur le bénéfice. Il y a des entreprises qui perdaient de l'argent, devait quand même payer énormément d'impôts de production. Et c'est pour ça qu'en ce moment, les industriels sont énormément à la manœuvre pour essayer de convaincre le ministre Bruno Le Maire de mettre une suppression ou en tout cas une diminution des impôts de production, parce que 70 milliards, c'est beaucoup, dans le plan de relance, parce que ça éviterait cette vague de faillite qui risque d'arriver, effectivement, non pas maintenant, mais l'année prochaine, quand les prêts que toutes les entreprises ont eues arriveront à échéance, qu'elles commenceront à rembourser.
Le plus dur est devant nous. Donc on entend là que dans l'industrie, il y a finalement 80%, Mathieu Plane, d'activité. C'est pas mal. Philippe Dessertine nous dit qu'il y a des secteurs qui vont bien, il y a des secteurs qui vont moins bien, mais finalement, le rebond, ben, il était à la hauteur du plongeon. Et Bruno Le Maire, lui, nous dit mais non, mais le plus dur est devant nous. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est-ce que c'est vrai ?
Alors oui, parce que enfin, je pense qu'on a vu la partie émergée de l'iceberg. Et là, on va rentrer dans le plus dur. Il faut savoir que depuis le début du confinement, jusqu'à aujourd'hui, on a perdu à peu près 165 milliards d'euros de perte d'activité. La partie confinement, c'est à peu près 120 milliards. Et pendant le déconfinement, vous avez 45. C'est-à-dire qu'on continue à perdre. Vous ne gagnez pas. Hein. Donc ça veut dire que vous êtes quand même... Aujourd'hui, on dit qu'on a un niveau d'activité global, on va leur ajouter, qui est 8% en dessous de ce qui était avant crise. Je veux dire, historiquement, c'est énorme, moins 8%. C'est forcément, par rapport au confinement, on était à moins 32, moins 8, c'est mieux. Sauf qu'on continue à accumuler des pertes.
Pourquoi ?
Bah parce qu'on n'a pas retrouvé les niveaux d'activité dans la plupart des secteurs. C'est-à-dire que les secteurs qui ont gagné, qui ont retrouvé un niveau d'activité légèrement supérieur à celui d'avant, typiquement la réparation d'automobiles, ne va pas compenser l'aéronautique, ne va pas compenser l'ensemble des restaurants, l'hôtellerie, les parcs de loisirs, l'ensemble de l'activité dans lesquelles on est plutôt spécialisé et qui aujourd'hui connaît encore beaucoup de difficultés. Donc, vous accumulez ces pertes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des faillites, que vous n'ayez pas des destructions d'emplois massives. Il y a eu le chômage partiel et puis vous avez eu les prêts garantis par l'État et les reports de paiement d'impôts de cotisation. Donc vous arrivez à quelque chose où finalement vous avez réussi à préserver en partie le tissu productif, mais sauf que vous avez reporté le problème. C'est-à-dire qu'à la rentrée, il va falloir régler cette problématique des dettes. Il y a plus de 100 milliards de dettes de PGE. Et avec des niveaux d'activité qui sont inférieurs et des pertes accumulées, des coûts supplémentaires liés à la gestion de la crise. Et donc, vous allez avoir un problème, c'est que ça va coincer. C'est-à-dire, à un moment donné, ou alors, il va falloir un plan de relance extrêmement ambitieux dans lequel il va falloir reprendre des dettes, ce qui n'a jamais été fait. Hein.
C'est le sujet de
donc,
ce soir.
Voilà. La situation, c'est qu'on accumule encore des pertes.
Quand Édouard Philippe nous dit, Fanny Guinochet, Édouard Philippe, lorsqu'il était Premier ministre, nous disait qu'il va y avoir un risque d'appauvrissement général. Aujourd'hui, on a les économistes du Conseil d'analyse économique qui disent qu'il y a un risque d'affaissement de l'économie. Pour vous, le risque, il est sérieux ?
En tout cas, ces économistes disent qu'il faudrait mettre un bouclier, en tout cas pour éviter que des ménages perdent trop. Pour l'instant, les ménages ont moins perdu que les entreprises et les administrations. Je parle sous le contrôle de Mathieu Plane, parce que c'est le FCE qui a fait l'étude. Et qui montre que jusqu'à présent, les ménages ont été préservés globalement parce qu'il y a eu des airbags en fait, pendant la crise. On était sous cloche, il y a eu le chômage partiel. Mais ça ne veut pas dire que dans les mois à venir, ces ménages vont être préservés de la même façon. Il va y avoir beaucoup de pertes d'emplois. Donc, c'est des Français qui vont se retrouver à pointer à Pôle emploi. Donc là, les revenus vont diminuer. Il va y avoir, pour ceux qui seront en poste, eh bien, on est en période de crise quand même, donc vous n'aurez pas les primes, vous n'aurez pas les avantages que vous pouvez avoir habituellement, les plans d'intéressement vont être moins élevés. Donc il va y avoir toute une série comme ça d'événements qui vont faire qu'il risque d'y avoir un appauvrissement très fort des Français. Et on ne va pas éviter à une vague de faillites. Aujourd'hui, les licenciements sont en train de se négocier, les plans sociaux sont en train de se négocier. On voit qu'il y en a une petite augmentation. Les boîtes essayent de préserver, mais elles dégraissent quand même. Et puis, on parle de, vous citiez les grands plans, les 7000 emplois en moins chez Air France. Mais il y a tous les emplois un peu souterrains qu'on ne verra pas, qui seront
les sous-traitants.
Les fournisseurs, et là, oui. C'est des pertes d'emplois, c'est des non-reconductions de CDD, c'est des CDI qui devaient être signés, qui ne seront pas signés. Très concrètement, voilà à quoi il faut s'attendre pour la rentrée prochaine.
Sur l'utilité de l'argent public, Mathieu Plane, lorsqu'on a le parquet de Paris qui nous dit qu'il y a des fraudes massives au chômage partiel, plus d'1,5 million d'euros de fraude, ça c'est l'info de la journée, le parquet de Paris nous dit qu'il enquête, est-ce que ça veut dire que l'argent public, on n'est pas très bien capable de calibrer ou de bien distribuer notre aide ? Est-ce que ça doit nous interroger, ça ?
Ça doit nous interroger, mais il faut voir qu'on était dans une situation exceptionnelle. Ce n'est pas une mesure qui a été réfléchie en amont des années d'habitude hein, pour débloquer 40 ou 50 milliards hein, pour le chômage partiel. Il y a des commissions, il y a des évaluations. Enfin, on ne fait pas ça comme ça. Donc là, ça a été fait du jour au lendemain. Effectivement, le dispositif de chômage partiel, ça a été l'un des plus généreux du monde en France. Hein. Et on voit qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de difficultés. enfin difficulté en tout cas, tout le monde n'a pas joué le jeu, certains ont continué à travailler en le touchant, ça pose des problèmes effectivement sur l'efficacité de l'argent public, mais est-ce qu'on aurait pu faire autrement? C'est-à-dire que les contrôles vont avoir lieu a posteriori, hein. Et ça c'est un point important, mais il semble que le chômage partiel a été plutôt une bonne mesure, une mesure qui a quand même préservé l'emploi en partie, qui a limité justement les pertes de revenus d'un certain nombre de ménages, et limiter effectivement le nombre de plans de licenciement. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir qu'on était dans une période extrêmement
compliquée. Christine Cardellin, oui, sur les contrôles.
Je voulais simplement compléter, oui, c'est un principe qui a été acté dès le départ. Il fallait aller très vite. Donc on a distribué à toutes les entreprises qui le demandaient en disant les contrôles seront a posteriori. Et maintenant, les contrôles arrivent et effectivement, il y a des entreprises qui ont abusé.
C'est vrai que je crois que quand on utilise même le terme chômage partiel, c'est un terme qui était utilisé dans la vie normale, exactement ce que vient de dire. C'est-à-dire que là, on est dans la vie complètement incroyable qui a été celle d'un arrêt d'activité. Ce qui se passe, et je crois que vraiment, vous voyez, quand on dit fraude, c'est-à-dire on dit, bah, en fait, il y a des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient aucune entrée d'argent. Il n'y avait plus de chiffre d'affaires, plus rien du tout, donc elles ne pouvaient pas payer leurs salariés. On a dit le chômage partiel vous paie les salariés. Et là, effectivement, il y avait peut-être, dans beaucoup de cas, les gens à la maison, on leur disait, bah, regarde pas la télé, essaie de commencer à
faire... Essaie quand même de nous faire quelques petits mails et ou là, d'avancer le dossier.
Mais oui, c'est ça, la question du... Oui. Vous voyez, quand vous dites, ça, c'est une fraude, il y a plein de patrons aujourd'hui, y compris patrons de petites entreprises, qui vous disent, mais moi, je suis peut-être fraudeur, mais en fait, c'était pas vraiment de la fraude. Enfin, on était en train de bricoler, je crois vraiment, on est dans cette idée de bricolage, en disant, le but, c'était maintenir l'outil de production pour quand ça avait redémarré. C'était quand même ça, la grande idée.
Et si j'entends bien, bah, jusqu'à présent, ça a réussi quand même à maintenir, à nous faire revenir à 80%, mais il va peut-être falloir aller plus loin. Alors en tout cas, on ne va pas s'arrêter à 450 milliards d'euros de soutien public. Hier encore, le gouvernement a annoncé une rallonge de 45 milliards d'euros pour aider les secteurs fragilisés par la crise du coronavirus. L'objectif est clair, il faut éviter au maximum les faillites et puis la vague dont on parlait des plans sociaux. La récession sera-t-elle massive ou limitée grâce à ces aides d'urgence de l'État? Voici des éléments de réponse avec Pierre Babin, Antoine Magnan et Dominique Lemarchand.
Symboliquement, ils ont choisi de manifester à proximité des pistes. Rassemblement de milliers de salariés d'Airbus contre la suppression programmée de 5000 emplois en France. À Paris, près de l'Assemblée nationale, ceux du groupe Nokia.
On sacrifie toujours les salariés à la compétitivité, dans n'importe quelle boîte.
Ils viennent crier leur colère après l'annonce d'un nouveau plan social. Plus de 1200 emplois sont menacés.
On n'a pas arrêté de travailler pendant le confinement. On a tous télétravaillé, on a été félicités par la direction. Et pour nous féliciter, on nous propose de nous licencier. Voilà.
Je ne sais pas s'ils sortent sur la pandémie, mais les plans sociaux, je pense qu'ils veulent que Nokia disparaisse de France, uniquement. Et qu'ils transfèrent toutes les activités sur les pays à bas coût.
Depuis le 1er mars, 193 plans de sauvegarde pour l'emploi ont été lancés. À terme, plus de 27 000 postes sont menacés. Une situation alarmante et le gouvernement n'est guère optimiste pour la suite. À la tête de Bercy depuis 3 ans, Bruno Le Maire a désormais la délicate mission de piloter la relance économique.
Je mesure surtout la tâche écrasante que cela représente au moment où la France affronte sa crise économique la plus grave depuis 1929. Ma feuille de route est claire, ma feuille de route est simple. Ce sera la relance le matin, la relance à midi et la relance le soir.
L'État fait donc tourner la planche à billets et vote une nouvelle loi rectificative budgétaire. 45 milliards d'euros injectés pour les secteurs les plus vulnérables. En tête, le tourisme et l'aéronautique. Hier, Jean Castex, vanté pour ses qualités d'écoute, a reçu les partenaires sociaux pour parler des retraites. Un sujet rapidement balayé par les syndicats.
Clairement, la priorité aujourd'hui, c'est l'emploi. Donc on a dit très clairement au Premier ministre que la question des retraites ne devait pas venir polluer la question de la relance économique et sociale.
Quand tous les syndicats, et même les patrons, sont d'accord pour dire ce sujet-là, il n'est pas prioritaire, bah, quand on dit qu'on est à l'écoute et qu'on veut dialoguer, c'est évident qu'on en tient compte.
Merci. Évitez donc à tout prix les licenciements. Pour cela, un nouveau dispositif permet aux entreprises de maintenir l'emploi sur la durée. Le motoriste aéronautique Safran est le premier à en bénéficier. En accord avec les syndicats, l'entreprise pourra réduire le temps de travail de ses salariés de 40%. Ils toucheront tout de même 90% de leur salaire net grâce à des aides de l'État. 12 000 emplois étaient menacés. Sauver l'emploi coûte que coûte, pendant que certaines éclaircies viennent illuminer un horizon pourtant bien sombre. L'INSEE table cette semaine sur un recul du PIB de 9 points. Une estimation moins pessimiste que prévu.
C'est une crise qui est très sévère. Je le dis au passage, elle est peut-être un peu moins sévère que nous ne le redoutions il y a quelques semaines, parce que la reprise semble plus rapide. Notre pays a besoin de mesures de relance, ciblées, sélectives, bien choisies. Mais plus encore que de mesures de relance, notre pays a besoin d'un pacte de confiance avec les acteurs privés, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, qui sont les premiers moteurs de la reprise.
Le mois dernier, la consommation des ménages a sensiblement rebondi, à peine 3% plus faible qu'en juin 2019. L'industrie redémarre et certains secteurs retrouvent des couleurs. En tête, le bâtiment, où les chantiers à l'arrêt complet pendant le confinement sont désormais relancés. Autre redémarrage inattendu, celui de l'automobile. En mai dernier, sa production a augmenté de près de 50% par rapport au mois précédent.
Et d'abord, cette question que nous envoie une téléspectatrice, c'est Béatrice du Nord qui nous écrit, qui nous demande, qui vous demande, la crise actuelle, est-ce qu'elle est plus grave que celle de 2008? Ben, je vais vous la poser. Dans l'industrie, Christine Cardellan, est-ce que c'est plus grave qu'en 2008?
Ça peut être plus grave qu'en 2008. C'est-à-dire qu'en 2008, il y a eu un décrochage, 2008-2009, il y a eu un décrochage vraiment de l'industrie par rapport à toutes ses concurrentes étrangères, par rapport à l'Allemagne notamment. On était à 14% de PIB, on est tombé ensuite à peu près 10% de PIB. L'industrie ne pèse plus grand-chose, en fait, dans l'économie française. Et donc, on peut craindre que si on ne fait rien, notamment sur les impôts de production dont je parlais tout à l'heure, alors qu'on va avoir moins 9% de croissance, enfin de décroissance, et qu'en 2008-2009, on était plutôt à moins 3. Hein, je parle sous le contrôle des économistes plus sérieux que moi. Mais c'est beaucoup plus profond. La récession est beaucoup plus profonde que celle qu'on avait en 2008-2009, qui venait de l'extérieur, qui venait de la finance, alors que là, c'est vraiment une crise qui nous prend de l'intérieur.
Une crise qui venait de la finance en 2008, ouais. Mais qui finalement était moins grave qu'aujourd'hui, cette crise sanitaire qui devient une crise économique.
Oui, je crois vraiment, d'ailleurs, c'est le problème de tous les décideurs, quels qu'ils soient, politiques, entreprises, grands, petits, c'est qu'on n'a jamais connu ça. Quand on va dire, ah oui, vous vous souvenez de 2008, mais non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, là, vous voyez, quand vous avez une crise habituellement en économie, vous vendez moins, vous allez dire, j'ai vendu moins 30%, tu te rends compte, c'est zéro. C'est-à-dire, là, vous avez les secteurs entiers à zéro. On n'a jamais connu ça. Même quand le ministre dit 1929, non, ça n'a rien à voir avec 1929. 1929, à la limite, on pourrait dire, effectivement, le terme de guerre qui a été utilisé, vous voyez, quand tout est détruit. Là, effectivement, ça ressemble un peu à ça quand ça recommence à redémarrer. Mais donc, je crois qu'il faut absolument comprendre qu'on ne peut pas utiliser un rétroviseur pour essayer de se projeter. Ce n'est pas possible. On invente au quotidien et on voit bien que tout le monde tâtonne. Hein. On disait, tout le monde bricole, tâtonne, parce qu'effectivement, on est dans une situation totalement inédite.
Est-ce qu'ils sont un peu perdus, les économistes, Mathieu Plane ?
Oui, pas que les économistes, je pense, mais en tout cas, il faut sortir de notre zone de confort sur les modèles. C'est-à-dire qu'on a des chocs sectoriels qui sont très forts, qui ne sont pas du tout homogènes. Du coup, la spécialisation sectorielle des pays va jouer beaucoup. Les décisions.
Alors, la spécialisation sectorielle, ça veut dire que, par exemple, l'Allemagne, elle fait des machines-outils, voilà, la France, elle fait du service.
On est touchés en plein cœur, en fait, de notre attractivité, ce qui faisait un peu notre force. C'est-à-dire, c'est quoi ? Effectivement, il y a l'aéronautique, le transport aérien et tout ce qui est lié au tourisme. Spectacle, événementiel, loisirs, art. Enfin bon, donc tous ces secteurs-là sont en grande difficulté. Donc oui, il va falloir comprendre ce qui se passe de ce côté-là. Il y a aussi les mesures publiques qui vont jouer. Et puis il faut savoir que, en fait, la crise sanitaire, effectivement, elle crée la crise économique, mais c'est la réponse à la crise sanitaire. C'est-à-dire que c'est le confinement. C'est tout ce qui est les contraintes qui ont été mises dans les transports, l'ouverture ou pas de certains commerces qui ont rendu ça contraignant. Donc vous avez plein de paramètres nouveaux dans un environnement international très incertain. Et puis après, il y a le comportement des ménages, qu'on a du mal à modéliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une accumulation d'épargne énorme, c'est 75 milliards de plus que d'habitude sur l'espace des 4 mois. Et savoir, est-ce que justement, ces 75 milliards vont être petit à petit réinjectés dans l'économie, ou au contraire, est-ce que ça va devenir une épargne de précaution, de façon à dire, attention, les lendemains vont être difficiles, je le mets de côté. Mais si on fait ça, alors c'est une catastrophe, parce que ça veut dire que cette épargne-là n'est pas réinjectée pour soutenir la consommation, l'activité, notamment de tous ces services qui ont souffert pendant la crise. Donc, on a beaucoup de paramètres extrêmement nouveaux.
Alors, De la nouveauté, on voyait là dans le reportage les plans sociaux, on en a parlé, mais Fanny Guinochet, autant l'aéronautique, on était très fort, ça allait bien, autant il y a des secteurs qui pouvaient peut-être plus s'y attendre, non
qui Il y a des secteurs qui allaient déjà mal. Ouais. Par exemple, l'habillement, on voyait bien toutes les marques aujourd'hui dont on entend qu'elles sont en redressement judiciaire, les Naf-Naf, André, enfin, Camailleux, vous avez une série d'enseignes qui allaient déjà mal parce qu'il y avait des changements de consommation. Et là, la crise, ça précipite le drame, en fait, ça précipite la chute. Et ce sont des milliers d'emplois, parce que quand vous mettez ça bout à bout, c'est 15 à 20 000 emplois qui vont disparaître. Donc, il y a des modes, de, l'automobile aussi, l'automobile, tout le secteur était face à un virage à prendre très fort avec la fin du diesel, la transition écologique. Enfin, et là, bah, ça précipite le mouvement. Et là, effectivement, vous avez une difficulté en plus supplémentaire dans les paramètres qu'évoquait Mathieu, c'est aussi l'avenir. C'est-à-dire que cette crise sanitaire, vous entendez que qu'il y a des pays où on reconfine, où on nous dit qu'il y a des clusters qui reviennent.
Et tout ça donc, est suspendu au virus, finalement.
Tout ça est suspendu au virus. C'est là où, pour les chefs d'entreprise, même pour les ménages, quelles décisions prendre face à l'avenir qui est extrêmement incertain. En 2008, certes, il y avait eu un crack. Bon, à peu près, on sait ce que c'est qu'un crack. Et puis derrière, il y avait les mesures qui étaient... Et on ne se préparait pas à avoir trop de rebonds ou de secousses. Là, on a l'impression que bah, les secousses, elles vont peut-être aussi arriver. Alors, ça ne sera pas des reconfinements de la même façon que ce qu'on a connu, mais quand même, il y a ce risque qui est très présent.
Et sur les plans sociaux, quand même, hein, Christine Kerdelan, on a vu donc, qu'il y a des secteurs surpris, il y a des secteurs qui étaient fragiles. Et puis là, on a ces dossiers Nokia, les télécoms, Sanofi, la pharmacie. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, il dit carrément que ce sont des marques boulins. La crise, elle a bon dos. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Peut-être qu'ils en ont rajouté effectivement un peu en utilisant le prétexte du Covid. Mais globalement, enfin, il y a quand même, Fanny parlait tout à l'heure de la restauration ou de l'habillement, ces enseignes, elles ont connu les gilets jaunes, ensuite elles ont eu la grève à cause de la réforme des retraites, et maintenant le Covid par-dessus. Humainement, elles ne peuvent pas tenir. Ce n'est juste pas possible. Ça, alors que les Nokia, dans son secteur, on n'a pas l'impression que ce soit particulièrement sinistré. Hein, dans
on n'a pas eu l'impression que les télécoms, ça a été et beaucoup touché par le virus.
Sanofi va plutôt bien et même envisage de relocaliser un certain nombre de productions de médicaments en France. Donc, c'est vrai qu'on peut s'étonner. Est-ce que ce ne sont pas des licenciements boursiers, comme on les appelait autrefois? Ça avait un peu disparu. Est-ce que ce n'est pas en train de revenir en profitant du Covid?
Alors, il y a aussi une question. C'est lorsque la secrétaire d'État, la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, elle dit « ce plan est inacceptable en l'État ». Est-ce que l'État, il peut quelque chose, Mathieu Plane?
L'État, il peut effectivement communiquer sur certaines choses.
Mais en fait, qu'il n'est pas du tout content et qu'il n'est pas
qu'il
du
est
tout
pas content.
Après,
voilà, face à cette incertitude, on peut imaginer qu'un des boîtes... Alors d'abord, il y a eu quand même plus de 50 milliards de pertes hein, du côté des entreprises, hein, ce qui est quand même colossal. Le problème, c'est que certaines entreprises qui allaient mal, forcément, ça a été un accélérateur. Et que les entreprises qui ont intégré le fait que cette crise pouvait être pas juste conjoncturelle, mais plus structurelle... Anticipe le fait que les niveaux d'activité ne reviendront pas forcément à ceux d'avant-crise. Et donc, la question qui va se poser, c'est qu'au début, vous ajustez sur les coûts variables, c'est plutôt l'investissement. Et dans un deuxième temps, malheureusement, c'est la masse salariale. Et donc, soit ça va être des accords de performance collective, de négociation.
Ça veut dire on garde de l'emploi, mais vous travaillez plus.
On préserve l'emploi, mais en contrepartie, soit vous travaillez plus, vous ne gagnez pas plus, soit on diminue votre salaire, vous travaillez pareil. Donc, c'est en fait un espèce de deal comme ça. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il y aura des faillites, certainement. Et même des plans de licenciement. Là, on le voit sur les chiffres de plans de licenciement. En fait, à partir du mois de juin, on a une vraie accélération. C'est 6 fois plus que d'habitude. Hein. C'est-à-dire que ça a été très contenu jusqu'à la fin mai. Et quand vous regardez les chiffres du mois de juin, vous êtes quasiment 6 fois plus à ce qu'on avait l'année dernière. Donc là, on est dans cette phase d'accélération. C'est plutôt la deuxième phase de crise.
Philippe de Sertine.
Oui, peut-être il faudra dire quand même qu'à la fin, on va avoir un fort rebond, parce que sinon, nos téléspectateurs vont mais c'est vrai que là, évidemment, on est au cœur du moment, enfin même,
le moment
pire, ça va être l'automne, sans doute, d'ailleurs.
À la fin, vous la voyez, on aura un fort rebond. C'est-à-dire, là, on a vu qu'on est à 80% de l'activité. Quand vous nous dites, à la fin, on aura un fort rebond, vous êtes en quelle année? Donc et là, le rebond, c'est 100%?
Donc là, on est d'accord, je suis super modeste, parce que je suis sûr que je vais me tromper en vous le disant. Mais grosso modo,
c'est
ce sur quoi on est, s'il n'y a pas de seconde vague, s'il n'y a pas la Chine qui envahit Taïwan ou des choses comme ça, donc qui est quand même pas des choses complètement écartées, on dit normalement le rebond c'est 2021, c'est-à-dire ça va venir vraiment vite, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une logique vraiment une grosse grosse récession sur l'année 2020 comme on n'a jamais connu, il n'y a pas de statistiques où on ait connu ça, et en revanche une reprise très très forte en 2021 comparée quoi, toujours pareil, quand vous venez de très bas, c'est des taux de croissance qu'on n'aura jamais connus, traînés notamment par la reprise très forte en Asie. Donc là, on se projette là-dedans. Mais c'est vrai qu'évidemment, quand vous êtes aujourd'hui dans la phase 2, celle de déconfinement, où effectivement, on voit les licenciements des entreprises qui disent, honnêtement, nous, conjoncturellement, ça ne va pas aller. L'aéronautique qui dit, voilà, ce n'est pas la peine qu'on attende. Avant que l'aéronautique reparte,
ça sera 2023. Voilà. Hein,
oui, voilà, c'est ça, exactement.
Hein,
donc, l'automne, ça va être terrible parce que là, on va avoir effectivement toutes les PME. Ce qu'on disait, les PME faibles, elles n'ont pas eu les plans garantis par l'État. Elles ont eu la solution, on va dire, du chômage partiel, mais elles sont super fragiles. On sait que là, il va y avoir de la casse. Et donc ça, c'est clair que toutes les entreprises fragiles, grosses ou petites, elles vont périr. Là, je crois que vraiment, c'est clair. Et ça va être la une de l'actualité quand ce sont des très grosses. Bon, Nokia, par exemple, c'est un gâchis incroyable. Hein, ça, c'est l'histoire d'Alcatel. C'est Alcatel. Hein, c'est Alcatel. C'est quand vous regardez, quand on fera l'histoire de ce gâchis, on sera évidemment épouvanté. Là, on est au dernier acte. Mais il y en aura d'autres. Il va y avoir plein de petites entreprises qu'on ne connaît pas qui vont malheureusement mettre la clé sous la porte. Mais après, il y aura le rebond.
Alors, justement, c'est intéressant ce que vous nous dites sur le rebond et puis le calendrier. Fanny Guinochet, il y a une question d'agenda, de timing, de ce que doit ou peut faire l'État, le gouvernement en ce moment. Alors, on a le Premier ministre. Le nouveau, Jean Castex, qui reçoit depuis hier les organisations syndicales et patronales. Et il annonce, ce Premier ministre, qu'il veut régler au plus vite le dossier des retraites. Alors là, tout le monde, les partenaires sociaux lui ont répondu « ça n'est pas la priorité ». Est-ce que financièrement, ça veut dire qu'il n'y a pas urgence? Ça veut dire que ça n'est pas l'urgence du moment?
Financièrement, il n'y a pas d'urgence? Ça va mal quand même. Si vous prenez le dossier des retraites, on envisageait 4 milliards de déficit, on va être à 30 milliards. Parce que la crise aussi, c'est des rentrées de cotisations qui ne se font pas. Donc forcément, ça aggrave un régime qui était déjà mal en point. En revanche, c'est vrai que sur le timing, là où j'aurais tendance à rejoindre les partenaires sociaux, c'est que la vraie priorité, ça va être l'emploi. Les retraites, on voit en plus que c'est un sujet extrêmement conflictuel. Quand Laurent Berger dit on a peut-être autre chose à faire que de nouveau se foutre sur la gueule, hein, c'est l'expression qu'il emploie, c'est parce qu'on voit que c'est un sujet très difficile. Et en plus, comment on règle le dossier des retraites? Souvent, c'est en allongeant la durée du travail. Si on allonge la durée du travail, on le voit aujourd'hui, les premiers qui sont poussés vers la porte de sortie dans les plans sociaux, ce sont les seniors. On appelle gentiment les seniors, c'est plutôt les gens qui ont entre 55 et 60. Donc eux, on va les pousser vers la porte de sortie, on va leur demander de travailler plus longtemps, alors qu'on les pousse vers la porte de sortie de l'autre côté. Donc il y a des injonctions contradictoires là, et les partenaires sociaux aujourd'hui, on peut les comprendre politiquement, ils n'ont pas du tout envie de rouvrir ce dossier parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce que derrière, l'idée, c'était aussi de faire un régime universel des retraites. Alors ça, Emmanuel Macron y tient, mais la question financière des retraites. En plus, on est dans le quoi qu'il en coûte. Est-ce que c'est aujourd'hui, alors que l'État dépense, vous avez rappelé les chiffres, des milliards d'euros pour sauver l'économie, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver de l'argent pour les retraites?
Mathieu Plane, sur cette question, est-ce qu'on peut en même temps relancer l'économie et continuer les réformes? Et les réformes économiques et sociales, c'est l'assurance chômage et les retraites.
Moi, je ne crois pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout sorti de cette crise. L'urgence, c'est la crise. Et de justement ajuster les bons plans de relance en France, mais aussi au niveau européen, trouver les bonnes stratégies de sortie de crise. Là, on est sur des réformes structurelles. On voit qu'ils sont assez difficiles à mettre en place, hein, sur négociation. Et on voit bien que la question budgétaire va revenir. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire, bah, finalement, il va falloir par exemple 30 milliards et trouver 30 milliards, alors même qu'on va dire de l'autre côté, bah non.
Ça, en fait, c'est le déficit du régime de retraite.
Et en même temps, on va annoncer un plan de relance de 50 milliards. Il y a un moment, ça ne va pas du tout passer. Donc il faut trouver une piste, enfin en tout cas, à mon avis, qui est celle de la sortie de crise. Et bien sûr que le dossier des retraites reviendra peut-être plus tard, mais ce n'est absolument pas le moment, à mon avis.
Christine Kerdelin.
Oui, on ne comprend vraiment pas pourquoi ce dossier revient sur la table tout de suite. Alors, on dit que c'est parce qu'Emmanuel Macron veut montrer que sa capacité réformatrice est toujours là et qu'il se place dans la perspective électorale de 2022 et qu'il faut cocher toutes les cases de son programme de 2017.
Donc là, on ne parlerait pas d'économie, mais de politique.
Voilà. Sauf que, il ne dit pas qu'il va reprendre la réforme des retraites, réforme à point, avec les régimes sociaux intégrés, les régimes fusionnés, etc. Non, on parle juste de rééquilibrer le régime, c'est-à-dire simplement soit prendre une mesure d'âge, allonger l'âge auquel on part à la retraite, soit la durée de cotisation. Donc, ce n'est pas du tout la grande réforme qu'il voulait faire. Alors, pourquoi est-ce qu'il remet ça sur la table maintenant? Les gens qui le voient dépenser des centaines de milliards, effectivement, dans les prêts, etc., se disent, pour 40 milliards, est-ce qu'on va remettre la France à feu et à sang? Est-ce que ça en vaut la peine?
Donc ça ne serait pas Philippe Dessertine. Donc ça ne serait pas l'urgence du calendrier de la séquence qui s'ouvre maintenant. Cette séquence, on tourne autour depuis tout à l'heure. Ça s'appelle la relance et c'est en train de s'écrire et ça va nous être présenté fin août, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a en fait deux choses. C'est-à-dire que c'est certain que c'est pas le moment évidemment de dire ah maintenant on va réduire les déficits. C'est pas le moment de dire on va faire des réformes structurelles parce que la situation est tellement grave que la vraie question là, vous voyez, vous n'êtes pas en train de repeindre le bateau. Vous êtes en train de boucher le trou au fond de la coque. Quoi. Donc, c'est vraiment ça l'urgence actuellement. Cela étant, on avait eu déjà, on a vu tout à l'heure dans le reportage M. Villeroy de Gallo de la Banque de France, qui a quand même dit à un moment attention, hein, au fait, toutes ces dettes, il faudra qu'on les rembourse. Là, au fond, je pense que l'idée quand même aussi du gouvernement, c'est de dire on a un problème structurel. Bon, c'est sûr que probablement on ne va pas le traiter, mais juste on vous rappelle, quoi. Le problème en France, c'est que quand ça ne va pas, on ne réforme pas, mais quand ça va, on ne réforme pas non plus, parce qu'on dit bah, faut continuer, on veut en profiter. Donc là, c'est un peu probablement le rappel que, attention, il y a des choses qui ne vont pas bien et qu'on ne peut pas considérer, vous voyez, qu'on va inventer les milliards comme ça et qu'on va commencer à brasser des dizaines de milliards, qu'après tout, comme dit un peu que si, oui, bah, 40 milliards, après tout, qu'est-ce que c'est? 40 milliards, quoi, c'est beaucoup quand même, quoi. Vous voyez, c'est je ne sais pas, 20 porte-avions, quoi. Quand même, quoi. C'est important. Donc, à un
vous
moment.
Comptez en porte-avions.
Oui, ben, je sais pas, vous voyez, ça donne. Ben, je ne parle pas d'Airbus maintenant, on parle plus d'Airbus. On commence à avoir plus besoin de porte-avions en ce moment. Mais donc, bon, voilà, je dirais, c'est un tout petit peu le message, à mon avis, qui est envoyé par l'exécutif en disant bon, probablement, effectivement, on ne va pas le faire, mais quand même, il y a un problème. N'oubliez pas, quoi, on a un vrai déficit et il faudra à un moment donné trouver une solution.
Mathieu Plan, vous avez chiffré vous aussi, vous avez cité vous aussi un chiffre. Vous avez dit la relance, c'est-à-dire le fait de remettre du charbon dans le moteur, hein, c'est 50 milliards, c'est ça?
Non, alors il y a une note du CAE qui vient de sortir,
le Conseil d'analyse économique
aujourd'hui, qui parle de 50 milliards, c'est à peu près 2 points de PIB. C'est effectivement des montants aujourd'hui qui circulent, clairement qui s'ajoutent aux mesures d'urgence. Hein, donc c'est un surplus et c'est hors plan européen. Donc voilà à peu près les ordres de grandeur qu'on a en tête.
Et on a compris, Fanny Guinochet, que cette relance, elle doit nous mener vers une économie qui serait, je crois qu'il y a 3 adjectifs, industrielle,
plus verte décarbonée, en tout cas c'est le terme qu'aime bien employer Bruno Le Maire, hein, et les élections municipales avec l'arrivée des écologistes, là aussi c'est de la politique, hein, c'est difficile de séparer les deux dossiers, sera évidemment orientée vers des industries qui soient moins polluantes.
Ah bah, on va voir comment justement placer l'écologie au cœur de l'économie, ça c'est l'engagement qu'Emmanuel Macron a pris devant la Convention citoyenne pour le climat. Le chef de l'État, il a promis 15 milliards d'euros. Les ONG attendent le gouvernement au tournant et certaines réclament 2 fois plus. Émilien David, Myriam Zéhar et Maxime Laugier ont enquêté pour nous sur les enjeux de cette relance verte.
Face à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le cri d'alarme de Greenpeace à 80 mètres de haut. Une banderole pour pousser le gouvernement à agir en faveur du climat. 2 mois plus tôt, 90 chefs d'entreprise publiaient une tribune dans le journal Le Monde plaidant pour une reprise économique verte. Parmi les signataires, les dirigeants de Total, BNP Paribas ou encore Renault.
Faisons des épreuves actuelles que nous affrontons ensemble une opportunité pour tous. Mettons l'environnement au cœur du rebond collectif.
Après la crise du coronavirus, le sujet semble faire consensus. La relance de l'économie, qui sera soutenue par un plan de l'État d'environ 45 milliards d'euros, ne doit pas se faire au détriment de l'écologie.
L'État prendra toute sa part. C'est pourquoi, dès le plan de relance que nous sommes en train de préparer, 15 milliards d'euros supplémentaires sur 2 ans seront injectés dans la conversion écologique de notre économie. Nous allons mettre en place un fonds de transformation écologique de notre économie dans le plan de relance.
Ce plan de relance verte ne sera dévoilé qu'à l'automne. Mais ses axes principaux ont déjà été évoqués. Il s'agira notamment d'investir dans les transports propres, d'accélérer la rénovation des bâtiments énergivores et d'inventer les industries de demain.
des industries que le ministre de l'économie souhaite davantage tourner vers l'innovation, comme il l'a rappelé hier lors d'une visite chez l'équipementier automobile Faurecia.
Ma conviction profonde, c'est qu'il faut accélérer cette transition écologique, que c'est une attente profonde des Français et que c'est ce qui fera réussir notre économie. Plutôt que de garder les mêmes technologies, il vaut mieux investir dans les technologies du futur qui seront des technologies vertes, décarbonées, protectrices de l'environnement.
Une volonté déjà affichée lors de l'annonce du plan de soutien à l'aéronautique le mois dernier. L'État a promis 15 milliards d'euros pour sauver la filière, dont 1,5 milliard pour développer un avion neutre en carbone d'ici 2035. Un objectif ambitieux, auquel participe déjà cette PME, qui met au point ce moteur hybride.
C'est une centrale électrique embarquée, comme je vous disais, qui va pouvoir utiliser divers types de carburants, donc des carburants conventionnels, des biocarburants, dans un futur proche de l'hydrogène.
Cette innovation, l'entreprise compte bien la vendre aux géants de l'aéronautique comme Safran ou Airbus. Ceux-là même qui devraient bénéficier du plan de soutien. Une aubaine pour l'entreprise qui s'attend à voir son activité s'accélérer.
Nos clients pourraient en bénéficier et pour le coup, ça leur permettrait d'acheter nos solutions. Et on a aussi un plan de développement qui prévoit un scale-up, c'est-à-dire une montée en puissance de nos motorisations. Et là, pour faire ces nouveaux moteurs plus puissants, bien évidemment, on va avoir besoin de fonds parce que ça reste une activité assez onéreuse de développer une nouvelle motorisation, qui plus est dans l'aéronautique.
Si 1,5 milliard d'euros sont bien destinés à l'innovation, le reste du plan de soutien a vocation à sauver la filière. 13,5 milliards d'euros pour aider un secteur qui contribue à hauteur de 2% aux émissions de gaz à effet de serre. L'ONG environnementale WWF dénonce un manque de garantie écologique contre le versement des sommes.
Ces milliards d'euros d'aide pour le secteur risquent malheureusement d'être une perfusion. Perfusion pour un secteur qui est en crise et fragilisé par le Covid-19. Donc ce que nous demandons, c'est que dans le plan de relance, l'aide qui sera mobilisée puisse aider le secteur à conditionner sa transition, aider le secteur à préparer l'avenir en termes de transition de l'aéronautique. Aujourd'hui, il n'y a aucune condition contraignante d'évaluation des objectifs climatiques du secteur ou d'efforts mis par le secteur dans sa propre transition.
Pour poursuivre ses objectifs écologiques, la France pourra s'appuyer sur le pacte vert de la Commission européenne. 1 000 milliards d'euros pour lutter contre le réchauffement climatique. L'un des objectifs principaux, décarboner au maximum l'énergie, en développant notamment l'hydrogène.
Et Fatia nous écrit du Val-de-Marne. Voiture électrique, avion à hydrogène, est-ce que l'avenir de l'industrie peut vraiment être écologique? Fatalement, c'est une question pour vous, Christine Carvalho.
Oui, mais c'est une bonne question et je pense que cette dame a raison. L'avion à hydrogène existera. Aujourd'hui, il y a déjà des voitures à hydrogène. Il y a Air Liquide, qui est une grande entreprise française, qui fait circuler des taxis à hydrogène dans toute l'île de France. Il y a Toyota qui a déjà une voiture à hydrogène. Il est en avance sur Renault ou sur PSA en la matière. Hyundai en a une aussi. Et ce n'est pas seulement pour les avions ou pour les voitures. Fabriquer de l'acier, aujourd'hui, ça demande beaucoup de charbon. Eh bien, on peut le fabriquer avec de l'hydrogène, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est pour ça qu'il va falloir de l'argent pour aider tous les secteurs qui vont faire leur transition énergétique en passant, par exemple, à l'hydrogène.
Et alors, quand on les aide, Philippe Dessertine, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut conditionner toutes ces aides qui sont en train d'arriver à certains objectifs verts, environnementaux? C'est ce qu'on voyait dans le reportage.
Oui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des indicateurs d'impact. On est beaucoup là-dessus aujourd'hui, sur le côté réel. Mais je crois que, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé avec le confinement, vous voyez, si maintenant on regarde au fond de manière positive cette expérience douloureuse pour l'humanité, c'est que, en fait, le confinement, c'est quoi? Ça a été un changement de modèle incroyable. C'est-à-dire, d'un seul coup, il a fallu complètement réinventer, ou pas d'ailleurs, parfois on ne faisait plus rien, mais souvent on a fonctionné différemment. Et je crois que derrière, là, tout ce qu'on est en train d'évoquer, il y a l'idée du mois de janvier, qui était de dire, on est dans une transition, progressivement, on va changer, on va avoir des voitures pareilles, mais maintenant elles seront électriques, etc. Puis là, tout d'un coup, on est dans du changement brutal. C'est possible. Et en plus, la population a vécu un changement brutal. Il n'a pas toujours vécu douloureusement, en disant, finalement, on peut vivre différemment et peut-être mieux. Au fond, peut-être qu'un des bons exemples, c'est l'aéronautique. L'aéronautique, oui, vous pouvez mettre un moteur à hydrogène. Mais ce qui se passe depuis un moment dans l'aéronautique, quand je dis depuis un moment, depuis un an, c'est que nos enfants ne veulent plus aller dans les avions. C'est ça qui change
tout. Ça, c'est plutôt de la décroissance pour l'aéronautique.
Mais, oui, mais c'est pas, oui, c'est ça. C'est-à-dire que non, mais quand ils disent on ne veut plus aller dans les avions, ils veulent aller autre part. Ils disent je veux pas aller aux Seychelles, je veux aller à Quimper. Bon, bah, c'est bon pour Quimper, c'est pas bon pour les Seychelles. Mais c'est déjà quelque chose, vous voyez, qui est un changement profond de la population qu'on avait dans l'aéronautique, qui commençait effectivement à inquiéter, en tout cas, qui obligeait à regarder de manière très, très attentive ce qui était en train de se passer. Et bien, Covid nous permet de penser l'ensemble de l'économie différemment, en disant c'est pas une transformation, en disant on va mettre maintenant une éolienne à la place d'une centrale électrique. C'est-à-dire peut-être que vraiment, on va fonctionner totalement différemment, comme ça s'est passé pendant 3 mois.
Donc, on change de modèle, on relance la croissance. Fanny Guinochet, est-ce que cette relance verte, on sait que ça peut faire des emplois et dans quelle mesure? Est-ce qu'on a des informations?
Alors, il y a différents rapports, mais oui, ça devrait forcément créer de nouveaux métiers, de nouveaux emplois. Certains disent que ce serait 1 million d'emplois. Alors après, il faut mettre aussi... en face tous ceux qui vont être détruits.
C'est le rapport du WWF aujourd'hui. Oui.
Et ça, c'est difficile de prévoir parce que la difficulté pour les transitions, pour les gens qui vivent, c'est que quand on vous détruit votre emploi, c'est difficile, vous n'êtes pas forcément la personne qui a les qualifications qui sont demandées pour l'autre emploi qui est proposé, le nouvel emploi de cette économie verte. Donc il y a forcément des gens qui vont y gagner, mais il y a aussi des gens qui vont y perdre en termes de compétences. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement veut mettre l'accent sur la formation, sur les compétences. Mais là où je rejoins effectivement Philippe Dessertine, c'est que même, on parle de l'aéronautique, mais l'automobile, c'est pareil. L'automobile, ça fait combien de temps qu'on entend parler de la fin du diesel, de cette transition, de la voiture électrique? Là, on voit bien, boum, c'est tellement fort que les constructeurs n'ont pas d'autre choix que de penser le modèle autrement. Et en plus, derrière, il y a aussi un changement, c'est que l'État, parce que derrière, il y a les citoyens qui poussent, l'État dit à Renault, on te prête de l'argent, mais à condition que tu investisses dans la batterie électrique, à condition qu'il y ait un certain nombre de véhicules propres sur lesquels il faut encore mettre l'accent. Donc c'est là où peut-être il y aura un changement par rapport à la crise de 2008. L'écologie était passée, on en avait parlé, mais c'était passé totalement à la trappe.
Mathieu Plane, dans cette relance, ce plan de relance qui est en train de s'écrire à Bercy, qui faut-il aider? Est-ce qu'il faut aider les entreprises? La Christine Cardellin, elle nous parle des industriels, ne sont pas les seuls d'ailleurs à monter au créneau. Hein. Il y a aussi les agriculteurs qui disent qu'ils veulent leur part du plan de relance, il y a le secteur des transports. Est-ce qu'il faut aider les entreprises ou est-ce qu'il faut aider les ménages et par exemple, je sais pas, les consommateurs ou bien les salariés qui doivent se former?
Il y a plusieurs étages à la fusée de la relance. Hein. C'est pour ça que l'écologie, elle est importante, il faut l'accélérer, hein, mais c'est un plan à 10, 20 ans. Et c'est justement le moment d'accélérer. Ça, c'est évident. Il y aura des déblocages. On voit que la Commission est à fond là-dessus. Il faut faire des choses là-dessus. Mais cette crise, c'est aussi une course contre la montre. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, c'est des risques de perte d'emploi, des risques de faillite. Donc, si vous voulez, relancer, par exemple, le secteur des commerces, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, l'événementiel, du loisir, ça passe assez peu par l'écologie, hein, malgré tout. Hein. Donc, c'est la question, c'est comment... vous faites pour... est-ce que d'abord, on veut garder ces secteurs-là, qui sont quand même assez importants pour la France.
Et qui représentent beaucoup d'emplois.
Et qui représentent beaucoup d'emplois, et effectivement. Et un contenu en apport très faible, en fait. Hein, parce qu'en fait, vous ne délocalisez pas ce type d'emploi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, du coup, il faut un plan de relance qui soit à la fois sur du long terme, et ça, c'est la question écologique, mais à court terme, c'est trouver rapidement la façon de remettre les rails de l'économie. Et ça, pour ça, il y a l'histoire de l'épargne. Comment on fait pour dégonfler l'épargne, les 75 milliards, pour qu'elle se réinjecte dans l'économie et plutôt dans les bons secteurs?
Ça, c'est un gros sujet.
Ça, c'est un gros sujet et c'est essentiel. Les Allemands ont fait le choix de baisser la TVA pendant 6 mois de 3 points. Je sais que les Anglais font une proposition d'un forfait de 10 pounds sur chaque repas. Enfin bon, il y a des choses un peu nouvelles. Et puis, il y a la question potentiellement des faillites et des fonds propres. C'est-à-dire que les entreprises se retrouvent en risque d'insolvabilité dans beaucoup de secteurs. Et donc, il va falloir renforcer les
parce
fonds
propres. Parce qu'elles n'ont pas fait rentrer de l'argent dans leur caisse.
Parce qu'elles ont des pertes qui s'accumulent.
Elles ne sont plus capables
de
payer.
Et pour le moment, c'est de la trésorerie qui s'accumule. Mais à un moment, les fonds propres vont être négatifs. Et donc, ça veut dire qu'elles vont être en faillite. Donc, si on veut éviter ces faillites, il va falloir renforcer les fonds propres. Donc nous, on a réfléchi à un dispositif là-dessus, mais il faut à la fois des mesures qui permettent de resolvabiliser les entreprises en difficulté et puis relancer la demande. Et puis après, un plan d'investissement, infrastructure écologique sur du long terme. Mais il faut ces 3, à mon avis, piliers, sinon on n'y arrivera pas.
En gros, vous êtes en train de nous dire qu'il va falloir faire de la relance tout...
Ben, il faut tout offre, demande et long terme.
Moi, je voulais juste
prendre 2 exemples d'investissements verts qui permettent de créer des emplois rapidement. La rénovation thermique des bâtiments, c'est la grande mode, mais ça va créer des dizaines de milliers d'emplois pour effectivement faire en sorte qu'on n'ait plus des passoires thermiques. Deuxième exemple qu'on voit moins souvent, en France, il y a 20% de l'eau qui est gaspillée. C'est-à-dire qu'entre l'endroit d'où elle part et votre robinet, il y a 20% qui s'évapore dans la nature. Enfin,
les,
pas dans la nature,
les gros tuyaux qui sont percés. En
à cause des tuyaux, oui, parce qu'on ne rénove pas assez ces tuyaux, parce que les plans d'investissement dans ces tuyaux, c'est moins de 1% par an de renouvellement. Donc, ce n'est pas suffisant. Eh bien, si on met de l'argent dans ces secteurs-là, on va effectivement économiser de l'eau et donc créer des emplois pour équiper tous nos sous-sols en nouveaux tuyaux.
Alors vous qui nous avez dit aussi que dans la relance, alors il y a plusieurs façons d'agir, et puis il y aurait d'aider les industriels en supprimant ces fameux impôts de production. Moi je voudrais savoir si c'est une bonne idée, Philippe Dessertine. Est-ce que c'est de combien on est en train de parler, alors qu'on a quand même quelques problèmes d'argent, et puis est-ce que ça a une efficacité ?
Alors, ça a une efficacité et c'est aussi un élément. Alors, on vient d'évoquer la demande, ça c'est évidemment un grand facteur. C'est-à-dire, là, ça va être cet été, par exemple, les gens, quand on dit qu'ils font de l'épargne, ils ont peur. Ils ont peut-être peur que le Covid revienne. Est-ce qu'ils vont aller sur les terrasses de café ou sur les plages, quoi ? S'ils sont beaucoup moins nombreux, déjà, on en a besoin de la demande intérieure. Donc, il y a cette dimension-là. Mais une dimension très, très importante aussi, c'est ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure, c'est la question des exportations. C'est la question de s'accrocher aux locomotives de la relance qui sont pas, c'est pas en Europe, voire même aux États-Unis que vous aurez les hauts taux de croissance. Ça va être notamment en Asie. Ça, c'est une vraie question parce qu'on va avoir un commerce extérieur qui va être un désastre. Pourquoi ? Parce que notre commerce extérieur dépend énormément, notamment d'Airbus. Airbus, c'est ce qui permet, évidemment, quand vous vendez des avions, là, tout de suite, vous avez des milliards qui rentrent.
L'aéronautique, le luxe, oui, tout ça.
Exactement. Voilà nos secteurs. Tous nos secteurs dans lesquels on est bon en commerce extérieur, ils sont tous en panne. Hein. Et donc là, effectivement, ça va être un désastre. Mais ça, c'est une vraie grande question que doit se poser l'économie française. Parce que quand on regarde le nord de l'Europe, eux, clairement, leur plan de relance, alors il y a le côté vert, tout ce qu'on a dit qui est très important, mais il y a l'idée comment je vais m'accrocher au wagon du redémarrage, notamment sur l'Asie. Le nord de l'Europe est focalisé là-dessus.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si, c'est l'argument des industriels, si on leur baisse leurs impôts de production, ils nous feront plus d'exportations et ils relanceront plus vite la machine. Vous dites que ce n'est pas une mauvaise idée, c'est ça ?
C'est même dire que si en revanche on leur met beaucoup d'impôts, là ils ne seront pas compétitifs du point de vue international. Et là ça va pousser tellement fort, c'est-à-dire ça va redémarrer tellement vite que si vous n'êtes pas là, on va dire, allez, soyons optimistes, au mois de mars 2021, au mois d'avril, sera trop tard, parce que là, immédiatement, vous aurez eu des concurrents, notamment en Asie, hop, qui arriveront et qui voudront prendre la place de celui, de l'Européen, qui aura disparu. C'est vraiment la hantise des pays du Nord, ça, en disant, on a des gros marchés en Asie, mais du jour au lendemain, on peut être effectivement remplacé, parce que d'un seul coup, il y aura une telle demande que si on n'est pas là, c'est d'autres qui prendront notre place.
Il y a deux choses dans ce que dit Philippe Dessertine, Mathieu Plane. Il dit que baisser les impôts pour les entreprises, ça serait une bonne idée, en fait, c'est comme ça que ça se résume. Et puis, il dit aussi qu'il faut agir très, très vite.
Oui, alors la règle des plans de relance, c'est ce qu'on appelle les 3 T. C'est que timely, ça veut dire au moment opportun, c'est de le faire. Transitory, ça veut dire qu'il faut que ce soit réversible. C'est-à-dire que typiquement, baisser la TVA, vous la remontez. Et puis après, targeted, ça veut dire c'est ciblé. Et là, si on fait la baisse d'impôt sur production, qui peut être une bonne idée, qui était déjà en gestation, hein, pour justement cibler l'industrie qui exporte, c'est une mesure structurelle, c'est une mesure durable. Donc il faut trouver les ressources en face. Une mesure de relance, elle est censée être temporaire. Donc, il faut faire attention. Je pense qu'on va package dans la relance. Si on parle des 2 points de PIB, c'est 2 points de PIB qui sont temporaires. Ce n'est pas pérenne. Donc, il faut faire attention. Quand on va baisser les cotisations sociales ou les impôts sur la production, c'est des mesures structurelles. Et donc, il va falloir distinguer un peu tout ça, à mon avis.
Alors, on va parler de la facture, de tout ce qu'on vient de détailler, de ce à quoi pourrait ressembler le plan de relance. Nous allons nous endetter, peut-être même tous ensemble en Europe. On appelle ça la mutualisation de la dette. Et c'est ce que nous n'avions pas fait en 2008. Ce sera la question au cœur du sommet européen des 17 et 18 juillet. Ça sera la semaine prochaine. Angela Merkel, la chancelière allemande, elle milite activement pour que les 27 pays membres adoptent au plus vite le projet de relance de 750 milliards d'euros de la Commission. Voici le dossier d'Aubry Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
Angela Merkel à la rescousse de l'économie européenne. Mercredi, celle qui vient de prendre la présidence tournante de l'Union réserve sa première visite au Parlement. La chancelière allemande en fait une priorité. Il faut accélérer la réponse à la crise d'après coronavirus collectivement.
Tous les efforts qui sont nécessaires aujourd'hui ne doivent pas simplement être fournis par les pays les plus forts économiquement. Nous devons tous nous mettre à la place de l'autre. Nous avons besoin d'une solidarité extraordinaire. Tout le monde y est prêt, l'Allemagne en particulier.
Un appel à l'unité, un de plus, à quelques jours du sommet censé sceller un plan de relance massif. Fin mai, la présidente de la Commission présente un schéma inédit. En plus de son budget, 1100 milliards d'euros, l'Union européenne emprunterait elle-même de l'argent sur les marchés financiers. 750 milliards pour soutenir les États les plus en difficulté.
C'est une nécessité urgente et exceptionnelle pour une crise aussi urgente qu'exceptionnelle. Ce plan de relance va réparer et investir dans notre tissu social, protéger notre marché unique, aider à rééquilibrer les bilans financiers à travers l'Europe.
Un fonds de relance où 250 milliards d'euros seraient versés sous forme de prêts à rembourser et 500 milliards seraient redistribués. Des subventions proportionnelles aux besoins des pays. Ainsi, l'Italie pourrait toucher 82 milliards, l'Espagne 77, 39 milliards pour la France et 29 pour l'Allemagne. Une dette commune, mutualisée, la mesure est inédite, soufflée par le couple franco-allemand. En échange, les États s'engagent à relancer leurs économies en investissant dans l'industrie, la santé ou la transition écologique.
Nous sommes arrivés à un moment de vérité pour l'Europe.
Et nous espérons que nous allons trouver une solution, même si le chemin à parcourir est encore long.
Car si Berlin mise désormais sur la dette européenne, ses alliés traditionnels y sont hostiles. Les pays dits frugaux, adeptes de la sobriété budgétaire. Le Danemark, la Suède, l'Autriche et en tête de file, les Pays-Bas. Alors, tour à tour, Emmanuel Macron et Angela Merkel tentent de convaincre le Premier ministre néerlandais. Mais pour Mark Rutte, pas question de mettre la main à la poche sans contrepartie.
C'est important qu'un tel fonds porté ensemble s'accompagne de réformes pour que tous les États membres soient aussi forts et que lors d'un prochain choc, un tel fonds ne soit pas nécessaire.
Des frugaux réticents à s'endetter pour les autres. Sur Twitter, un ancien Premier ministre italien pointe du doigt des pays radins. Des États du Sud, dont la Grèce, encore marquée par la crise de la dette.
Nous avons un système en place pour surveiller les performances des économies nationales. Ces dépenses vont s'appliquer à tous. Je ne pense pas que des conditions supplémentaires soient nécessaires. Nous avons besoin de nous faire confiance.
Des oppositions qui retardent le calendrier et qui pourraient coûter cher à l'Europe, tandis que les États-Unis et la Chine enchaînent les plans de relance.
L'Europe a besoin de réagir rapidement parce que plus les concurrents économiques réagissent de manière rapide, plus leurs entreprises seront mieux armées pour conquérir des parts de marché, pour racheter des groupes étrangers. Et si l'Europe a des valorisations d'entreprises qui sont trop faibles et une compétitivité qui n'est pas assez bonne face à ces grosses puissances économiques, eh bien on peut devenir la cible d'acquisition.
Une menace pour l'Europe, alors que mardi, la Commission publiait des prévisions plus pessimistes encore que prévues. Le PIB de la zone euro devrait reculer de 8,7% cette année.
Et cette question de nos téléspectateurs, que la dette soit française ou européenne, qu'est-ce que ça change au final pour notre porte-monnaie, Philippe Dessertine ?
Ce que ça change, c'est que la dette européenne, en particulier quand il y a l'Allemagne, les pays frugaux, a priori, elle est à des taux bas. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que là, on doit bien avoir conscience par rapport à tout ce qu'on dit. Et d'ailleurs, sur les faiblesses structurelles de la France, qui est emprunte depuis longtemps, qui est en déficit depuis longtemps, on va être à un déficit à plus de 11%, pour autant qu'on puisse... plus de 11%. Alors les Allemands, ils sont en train de dire, nous, on n'a plus de limite, on va peut-être à moins 3. Donc là, les Français leur disent...
– on a quand même des totems qui sont tombés. Le déficit à 3%, etc., c'est fini. –
Ils ne sont pas à moins 11, là, eux. Donc effectivement, nous, on leur a raconté que vraiment, ce n'est pas compliqué. Mais là, je crois que... Donc là, on doit bien avoir conscience que cette dette que nous avons emprunté là, rien depuis le début de l'année, on a emprunté comme une année complète déjà, plus de 170 milliards, donc alors qu'on n'est qu'au milieu d'année. Donc on est effectivement avec des dettes absolument astronomiques. Ça pourrait évidemment inquiéter évidemment ceux qui nous prêtent. Ce qui ne les inquiète pas, c'est de voir que là, il y a globalement la zone euro avec des gens sérieux, notamment l'Allemagne, et que du coup, les taux ne s'envolent pas. Il est évident que si on avait un éclatement de la zone euro, que si chacun empruntait, on va dire, avec ses conditions, là, quand on regarde bien, faut être très clair, les pays qui sont d'ailleurs ceux qui ont le plus souffert du Covid, c'est l'Italie, l'Espagne, la France, ce sont ceux qui ont les finances publiques les plus dégradées, ce sont ceux qui vont avoir les plus gros chocs en matière de croissance. Il faut dire que, aussi, ça ne tombe pas bien, c'est les trois qui ont le plus besoin, normalement, des ressources du tourisme. Donc, ça veut dire que si on était tout seul, on aurait vraiment des situations qui inquiéteraient, on va dire, l'ensemble des créanciers potentiels.
Alors, justement, notre dette, elle va monter fin 2020 à 120% du PIB, ce qui est quand même, en effet, un grand saut. Mathieu Plane, il y a ce débat pour savoir si on peut annuler la dette.
Je crois que c'est un débat pour le moins théorique.
On l'entend dans le débat public.
On l'entend dans le débat public. Après, il faut en parler à Christine Lagarde. Je crois pas. Elle dit que c'est théorique. Hein. Pour le moment, c'est bien.
Est-ce que c'est possible, maintient
la solvabilité des États. En fait, son rôle, c'est qu'il n'y ait pas un éclatement de la zone euro. Donc, c'est pour ça qu'elle alimente. Il y a un programme de quantitative easing qui permet du rachat des dettes. Et aujourd'hui, elle rachète massivement la dette des États. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Italie peut s'endetter à un taux qui est assez bas. C'est pour ça que la France s'endette à un taux zéro. S'il n'y avait pas ça, la zone euro aurait déjà éclaté, probablement. On serait déjà certainement en risque de défaut en Italie. Donc la question, c'est plutôt, après, effectivement, est-ce qu'il y aura une dette coronavirus spécifique qui sera traitée différemment? Est-ce qu'il y aura une mutualisation de cette dette, et on le voit avec le plan de relance européen? Ou est-ce qu'effectivement, elle sera renationalisée, cette dette? C'est à savoir, est-ce que chacun va devoir se débrouiller avec cette dette? Donc ça, ce sera l'après. Hein. On va dire que c'est dans les mois, les années qui viennent. Moi, je voulais juste rappeler ça, c'est que, suite à la crise de Lehman Brothers, les plans d'austérité, ils n'arrivent pas tout de suite, en fait. Ils arrivent en 2011. Hein. Il a fallu deux ans et demi. Donc, à mon avis, ça va être les enjeux du mandat d'après, c'est-à-dire 2022.
Christine Kerr-Delens, le gouvernement, quand il dit je fais le pari de la croissance, moi, en fait, la croissance, ça ne suffira pas à payer cette facture de la crise. On le sait déjà. Là, on est en train de parler de la dette. Est-ce qu'on peut. C'est volontariste.
Oui. Non, mais si on n'y croit pas, là, c'est effectivement sans espoir, quoi. Donc, il faut de la croissance. Plus il y aura de croissance, moins on aura de mal, effectivement, à financer cette dette. Mais le gouvernement a eu tendance un peu à noircir encore le tableau qui est déjà très noir en disant, par exemple, il va y avoir 800 000 licenciements, de façon à ce qu'il y en a 650 ou 700, on dit, c'est pas si mal. On a commencé à moins 11% de croissance, enfin de récession, et maintenant, on dit que ça va plutôt être moins 9. Donc, c'est vrai qu'on noircit le tableau, et en même temps, on dit, voilà, c'est la croissance qui va tirer tout le monde d'affaires, et parce qu'on aura réussi d'avoir plus de points de croissance que prévu, ben, vous voyez, on n'est pas aussi mal que ce qu'on avait envisagé naturellement.
Fanny Guinochet, oui. Dans les points positifs, quand même, même si les compromis sont difficiles, il y a quand même quelque chose de très positif, c'est que l'Europe se recrée quelque part. Le couple franco-allemand, politiquement et même économiquement, il est en train de reprendre de la vigueur. Donc c'est vrai qu'on peut noircir le tableau, il va falloir trouver des milliards et des milliards d'euros pour essayer de sauver la zone euro. Mais globalement, l'Allemagne, vous disiez, a fait tomber des totems. Enfin, l'Allemagne a été extrêmement pragmatique. On voit qu'il y a une volonté de part et d'autre de trouver une solution commune, mais une solution commune qui va aussi se décliner. On parle d'industrie, de souveraineté. Cette crise, elle montre qu'on en a marre de voir les médicaments qui sont produits en Chine parce qu'on n'a pas la main dessus. Bah, il ne faut pas se leurrer. Demain, s'il faut mettre des milliards d'euros pour une industrie du médicament qui soit, ça sera au niveau européen qu'on y arrive. On parlait de l'hydrogène. C'est pareil, c'est pas avec les 100 millions d'euros que la France va mettre qu'on va arriver à faire les moteurs, les dispositifs industriels.
L'Allemagne, elle met 9 milliards sur l'hydrogène.
Voilà, donc c'est bien pour ça que dans le champ politique et économique, là où il y a un vrai plus, c'est quand même que ça discute, on cherche des compromis, il va y avoir des contreparties, mais on a franchi une étape.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Bruno Le Maire est-il exagéré, pessimiste quant à la crise économique ? Et nous revenons donc à vos questions. Bruno Le Maire est-il exagérément pessimiste quant à la crise économique qui touche la France de plein fouet, ou est-il juste lucide ? Mathieu Plane,
Je pense qu'il a pris la mesure de la crise assez rapidement, d'où les mesures d'intervention qui ont été importantes. Je pense qu'il a gagné d'ailleurs sa place en tant que ministre de l'économie et ministre de la relance. Maintenant, on va voir la suite. Mais non, la crise est extrêmement grave. Donc, il ne pouvait pas faire comme si elle n'était pas grave. Et je pense qu'il est encore dans ce scénario-là, c'est qu'on n'est pas sorti d'affaire.
Certaines entreprises ont-elles profité de la situation pour licencier ou faire reculer les droits de leurs salariés, Fanny Guinochet?
Oui, il y a quand même certaines entreprises qui ont profité de, on parle d'effet d'aubaine, qui ont profité, le Covid a eu bon dos.
On parlait de Nokia tout à l'heure.
Alors oui. Nokia, mais il y en a certainement d'autres. Sanofi, c'est vrai qu'on se pose des questions, c'est quand même une entreprise qui va bien, qui est au cœur du, en tout cas, qui a des perspectives de fait avec la crise sanitaire. Il y a quelques secteurs quand même où, et puis après, vous avez toujours des entreprises individuelles où vous vous disiez que finalement, vous n'aviez pas envie de garder telle ou telle personne, et puis là, le Covid vous en donne le prêt. Texte.
Si j'ai bien compris, les entreprises gardent les employés quand c'est l'État qui les paie, c'est ça. Question de Claude à Paris.
Mais effectivement, à partir du moment où ils sont payés par, par l'État, vous pouvez les garder, mais le jour où ce chômage partiel ne peut plus, n'est plus versé, on finit par les licencier. Alors, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que d'avoir licencié au début ? Toute la question est là. On espère quand même que les entreprises elles vont redémarrer et donc que ce petit passage pendant lequel c'est l'État qui paye, eh bien, n'aura été qu'un passage et qu'ensuite ça aura permis de garder les gens, leur savoir-faire. Parce que lorsque les gens sont licenciés, ils oublient très vite leur métier, leur savoir-faire. Et donc, ça permet de garder des choses, des compétences, exactement.
Juste quand même bien se comprendre, là, que cette situation est incroyable. Quand le monsieur dit, c'est l'État qui paye, donc normalement, quand l'État, ça n'existe pas, hein, c'est nous, c'est nos impôts. C'est nos impôts
c'est
qui payent.
C'est le contribuable.
Voilà, en l'occurrence, même l'impôt ne rentre pas. Donc là, c'est effectivement, on a imprimé de la monnaie, qu'on a créé de la monnaie en disant, bah, c'est de la fausse monnaie, mais il n'y a pas le choix. Hein, donc là, c'est la monnaie qu'on a créée qui paye, mais c'est la monnaie effectivement qui veut rien dire. La seule solution pour que ça se rééquilibre, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la croissance. C'est-à-dire qu'il va falloir remettre de la richesse pour que ça se rééquilibre.
D'où la relance.
Et d'où la relance, d'où l'élément absolument capital.
Je ne comprends pas, nous demande Claude de Paris. Ben, Claude, alors, l'argent des États, est-ce que ce sont des data ou du papier ? Est-ce que c'est illimité, l'argent des États, Mathieu Plane ?
Ça dépend des institutions et de la banque centrale. Le Japon a plus de 250% de PIB de dette publique. Certains pays feraient faillite, ou défaut en tout cas, à 80% du PIB. Donc ça dépend des institutions, ça dépend de la crédibilité de votre politique économique, de la démocratie, de tout ça, qui font que bah, vous avez une garantie de remboursement à 10, 20 ans. Là, il se trouve que tous les pays font la même chose. Donc de toute façon, à un moment, les investisseurs doivent placer leur épargne quelque part, en tout cas l'argent. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'affaissement de la valeur de la monnaie à partir du moment où votre voisin fait la même chose. Donc, vous gardez quand même cette crédibilité. C'est pour ça que la BCE ne parle pas du tout la Banque centrale de monétisation définitive de la dette. Elle dit que c'est quand même... aujourd'hui, elle permet justement le refinancement des États à bas coût, mais elle ne dit pas « je vais annuler la dette ».
Une question. Est-ce qu'on sait si, à un moment donné, on va aussi rembourser cette dette avec des impôts, Fanny Guinochet ?
Bah, c'est la question. En tout cas, le gouvernement a promis qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts d'ici la fin du quinquennat. C'est aussi pour ça, tout à l'heure, on parlait des impôts de production. C'est pour ça que politiquement, c'est compliqué, parce que quelque part, vous baissez les impôts des entreprises, ça va vite être pris comme des cadeaux aux entreprises. Donc le plan de relance, on attend de voir ce qu'il sera, mais il y aura une partie certainement pour aider les entreprises, mais je pense que le gouvernement ne pourra pas couper au fait d'aider aussi les ménages, ou en tout cas certains ménages qui vont trinquer, qui trinquent déjà dans cette crise.
Jean-Pierre du Val-de-Marne demande, les mesures gouvernementales n'auront-elles servi qu'à retarder les faillites dans l'industrie ? Qu'en pensez-vous ?
Ça aura retardé un certain nombre de faillites, mais ça en aura quand même évité d'autres.
Ça en aura sauvé certaines.
Il faut être juste, oui, ça en aura sauvé certaines.
Une compagnie comme Air France peut-elle vraiment devenir plus verte ? Jamila en Ardèche, Philippe Dessertine, apparemment, on doute un peu.
Oui, bien sûr, oui, elle peut, mais redisons-le, hein, par rapport à ce qu'on disait sur les avions, sur le mode de fonctionnement, etc. Mais là, quand on est dans un changement de modèle, voilà, c'est la question, c'est probablement la question que pose cette téléspectatrice en disant, mais le mieux, c'est pas prendre l'avion, quoi. C'est ça qu'elle veut dire, probablement. Et ça, c'est les vraies questions qui sont devant nous, c'est-à-dire de changement de modèle de manière extrêmement forte et pas que sur l'aérien.
Et Christine Kerdelan nous disait, il y a des solutions qui existent, mais ça coûte. C'est ça, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'avion.
Oui, tout à fait, par rapport à l'hydrogène, etc. Ça coûte. L'hydrogène, ce sont des investissements très, très lourds, avec des rendements très faibles.
Si je peux ajouter quelque chose, c'est que je ne pense pas que les gens ont arrêté de prendre l'avion pour des raisons écologiques, c'est qu'ils ne peuvent plus se déplacer. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui va accélérer le phénomène de développement écologique, mais la question aujourd'hui, c'est l'ouverture des frontières. Et effectivement, le risque pandémique n'est pas écarté. Si les gens ne vont pas à l'autre bout de la Terre, ce n'est pas uniquement pour des raisons écologiques. Ils le faisaient avant. Il y a une prise de conscience, mais je veux dire, c'est que même si vous avez un moteur nouveau qui est plus écologique, la question, elle va être sur, effectivement, est-ce qu'on va voyager comme avant ? Alors, il y aura certainement une prise de conscience, mais je pense qu'il y aura aussi la préservation des pays qui risquent de reconfiner, en tout cas, les frontières, dès qu'il y aura une moindre alerte. C'est plutôt ça, je pense, les enjeux sur le tourisme.
Oui, enfin, c'est pas seulement le tourisme, oui. C'est-à-dire que pendant toute cette période, on s'est habitué à faire des visioconférences, les réunions qu'on devait faire aux États-Unis, etc., en Espagne, etc., on les a faites par visioconférence, de même qu'on a plus de télémédecine, on a plus de télétravail, on a plus de e-commerce, enfin, on a appris à faire beaucoup de choses par le numérique. Et ça, le fait que les gens retournent dans les pays pour faire des affaires, il y a beaucoup de gens qui iront moins dans les pays étrangers pour faire des affaires.
De ces nouveaux outils,
donc les avions sont moins utilisés.
Fanny Guinochet, comment protéger les jeunes particulièrement touchés par la crise économique, vous demande Marie-Vonne du Morbihan.
Il va y avoir un plan jeune, on l'attend, parce qu'il y a 700 000 jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail et qui vont se retrouver avec des difficultés d'emploi. Alors ça va être des primes ou des exonérations de charges, c'est-à-dire si vous embauchez un jeune, vous aurez une aide de l'État. Mais là aussi, ça va coûter de l'argent, ça fera partie des milliards d'euros du plan de relance.
Le jeune qui coûterait moins cher, est-ce qu'on a déjà testé ça? Est-ce que ça déclenche des recrutements, Mathieu Plan?
Ça peut marcher à la marge, mais il y a beaucoup d'effets d'aubaine. Donc c'est vrai que souvent ça coûte cher. C'est vrai que la question des jeunes est centrale parce que pour le coup, c'est les premières victimes de la crise économique. Et il va falloir en mettre le paquet. Quoi.
Mais on a déjà vu ça? On a déjà testé
les outils? Oui, on a déjà fait, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Mais...
Des emplois verts, d'accord, mais combien de personnes sont formées à ce jour, Christophe Delavienne? Est-ce qu'on a une réponse courte à apporter à Christophe, qui est formé aux emplois verts?
Justement, il y a un plan de rénovation thermique des bâtiments. Il faut qu'il soit accompagné d'une formation, c'est évident, et qu'il soit déployable rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a des emplois à la clé qui sont importants.
C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h20. Passez une excellente soirée sur France 5.